et nous allons prier. Notre Père, merci de nous accorder encore la révélation de ta parole. Que cette parole qui est éternelle, parce que tu as dit que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point, cette parole puisse vraiment toucher nos cœurs et la vivifier ce matin, afin que nous puissions être des serviteurs fidèles. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Je sais que tout le monde n'a pas entendu les prédications de dimanche dernier. D'autres peuvent les suivre sur Internet. Je voudrais juste faire une petite précision, un petit rappel en fait, hein, sur la notion de parabole. Hein. J'en ai parlé avec Claire, mais je l'ai dit, mais c'est bien de le redire. Une parabole, donc j'ai abordé plusieurs paraboles déjà depuis quelques dimanches. Parabole de la fusée, rappelez-vous, et de l'ARV, donc l'agent ravitailleur en vol. Hein, c'est un jeu. Donc, vous voyez que c'est une histoire inventée. Hein. Au moins, ça repose sur une partie vraie, mais l'autre est inventée. Je prends le bon samaritain, mais toutes les paraboles, on pourrait les prendre. C'est une histoire inventée que Jésus a pris, mais qui pouvait exister. Mais l'ensemble de l'histoire a été monté pour qu'elle ait un certain sens spirituel. Le lys, je vous ai parlé du lys. Hein. Jésus qui dit, regardez comment croissent les lys des champs, etc. Là, c'est pas une histoire inventée, mais l'observation, Jésus dit observer, hein, c'est un mot grec qui est utilisé pour dire observer attentivement, pas simplement observer, regarder, mais très attentivement, c'est-à-dire il faut scruter cette croissance. C'est une histoire, mais qui, disons, si on scrute pas, on le voit pas, hein, on voit le lys venir, etc. Mais quand on scrute, c'est une histoire où on rentre dans des détails pour essayer de comprendre. Et le dimanche dernier, j'ai pris l'idée du prisme, hein, le prisme qui diffracte la lumière. Et j'en ai fait une histoire inventée, dans le sens où, dans cette notion de prisme, j'ai parlé des deux espaces, un espace à gauche qui est un espace sacré, un espace à droite qui serait profane. Donc le prisme en question, c'est un prisme inventé. Hein. L'image inventée illustre la manière dont nous pouvons connaître Dieu, puisque le thème de ces messages, c'est connaître Dieu, c'est Philippiens 3:12 ou 3:13, je ne me rappelle plus, je vais vous donner la correspondance exacte. Pardon ? Philippiens 3:10, voilà. Mon but, donc c'est Paul hein, qui parle. Mon but est de le connaître, lui ainsi que la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Donc, je suis dans un ensemble de messages, là, que je vais pas faire aujourd'hui, mais qui est l'idée de savoir comment connaître Dieu, comment on peut connaître Dieu. Et ce prisme, en fait, ça m'aide à vous expliquer, en s'appuyant sur le prisme optique, mais en inventant une partie, dont cette partie qui est la partie sacrée et profane, pour illustrer la Trinité. Et la Trinité, vous savez que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, hein, mais c'est le concept chrétien de Dieu. Hein. Alors, certains qui veulent prendre ça à la lettre, ils vont dire, ouais, vous, chrétiens, vous avez un trois dieux. Oui, Père, le Fils, le Saint-Esprit, hein, ce qui est une critique un peu facile, mais qu'on peut admettre si on le prend au plus premier degré. Parce que la Trinité, c'est quelque chose que les pères de l'Église ont compris, qui était une manifestation de Dieu en trois personnes, hein, mais que c'est une seule personne. Donc c'est assez difficile à enseigner sur la notion de Trinité. Bon, Christian Schwartz l'a fait dans ses livres, que je vous recommande de lire. Mais on peut le rendre très simple, mais avec des images. Et donc l'image du prisme permet, entre autres, en allégorisant un petit peu cette notion, d'expliquer la Trinité. Donc, petit rappel, après tout ce que je viens de dire, que la parabole n'est pas une description des lois physiques, comme la Bible d'ailleurs, n'est pas un livre scientifique. Par exemple, vous allez voir dans la Bible que la Bible dit « le soleil se couche ». Or, on sait que le soleil ne se couche pas. Si on le prenait qu'au premier degré comme un livre scientifique, on dirait que la Bible elle est fausse. Et c'est ce que les détracteurs de la Bible disent. En fait, la Bible utilise ce qu'on appelle le langage des apparences. Le soleil se couche, on le voit se coucher. En fait, c'est nous qui tournons. Donc, c'est une apparence. Et donc, vous voyez, la Bible n'a pas la prétention de décrire des lois physiques. Les lois physiques, on les découvre par la science, par les techniques d'observation. Mais la Bible, donc, n'est pas un livre scientifique, ni un livre d'optique. Puisque la lumière, quand on parle que Dieu est lumière, en fait, il n'est pas lumière. Dieu, c'est une personne. Donc, mais quand on le rencontre, un peu comme Moïse l'a rencontré au buisson ardent, c'est comme une lumière. Moi, quand j'ai rencontré Dieu, c'est comme une lumière. C'est une lumière qui s'est manifestée, mais je n'ai pas vu une personne physique de Dieu. Voyez. Voilà, donc on est toujours dans les apparences. Donc la parole, la parabole, si on prend une parabole, donc la parabole du prisme, elle s'appuie sur une image que tout le monde a vue, qui connaît, vous avez tous vu un arc-en-ciel, je pense, de votre vie. Voilà. Donc vous avez vu des choses, vous pouvez imaginer certaines choses, mais qui n'est pas la description d'un phénomène physique. Et j'ai pris la lumière naturelle, parce que si vous savez la différence entre une lumière d'un laser et une lumière du soleil. Si vous passez la lumière d'un laser dans un prisme, qu'est-ce qui se passe? Si, il se passe quelque chose. Pardon ? Il est juste dévié, mais il ne fera pas d'arc-en-ciel. Parce que c'est une lumière monochromatique, c'est juste une longueur d'onde. Que ce soit un laser rouge, un laser bleu, un laser vert. Mais la lumière du soleil, elle projette cet arc-en-ciel. Donc, voyez, si on prend ce prisme avec la lumière du soleil, ça permet d'illustrer la Trinité, puisqu'on a une manifestation de Dieu en trois personnes. Donc, dans cette parabole du prisme, la lumière représente Dieu, mais qui n'est pas une lumière naturelle, mais une lumière surnaturelle. Voilà, donc déjà ça change. Et une manifestation de Dieu, ce ne sont pas des divinités inférieures, un peu, parce que si on prenait le prisme au sens optique, on aurait d'un seul côté un Dieu, une lumière, et de l'autre côté plusieurs dieux. Donc plusieurs divinités, vous voyez. Donc tout ça, on ne peut pas faire des transpositions comme ça, directes. C'est simplement une image pour vous aider, ceux qui écoutent et qui voient des choses, vous voyez l'arc-en-ciel, vous voyez le soleil, bon, ça permet de montrer que Dieu se manifeste de différentes manières. Mais on ne peut pas faire de correspondance biunivoque, je dirais, dans les deux sens, entre la physique et le surnaturel. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair, mais ça permet de bien montrer que si on parle de parabole, il ne faut pas tout prendre de correspondance de la loi physique à la loi spirituelle. Il faut simplement rester sur l'image qui nous parle. En l'occurrence, là, on va continuer cet enseignement sur comment connaître Dieu, et on le connaît de différentes manières. Et la première manière, la plus simple, que même les musulmans, que les athées, que les agnostiques peuvent connaître de Dieu, c'est quoi? C'est par quel moyen? Par Romains 1, c'est quoi Romains 1? Par la création. Si vous regardez la création, tout le monde sait que la création n'est pas venue comme ça. Et non? Même les athées, ils le savent. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un discours d'athée. Ça veut dire qu'ils savent que c'est impossible que ça ne se fasse comme ça. La preuve, c'est que dans des revues scientifiques, il n'y a pas longtemps, il y avait une revue scientifique, je ne sais plus comment elle s'appelle, la recherche. Il y avait un éditorialiste, vous savez, celui qui écrit le journal, qui s'est fâché tout rouge dans son éditorial. C'était assez hallucinant de voir ça, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents qu'il avait mis dans le livre, dans sa revue de recherche, un scientifique, un mathématicien, très érudit, qui avait expliqué par les mathématiques que l'évolution ne tenait pas la route. Que, comment ça s'appelle, Darwin, ce n'était pas la route, quoi. Mathématiquement, il a démontré A plus B, c'était impossible que ça existe. Il a eu une volée de bois vert par des gens qui ont dit « Je m'abonne plus à la revue, je ne veux plus rien savoir, etc. » Et là, l'éditorialiste a dit « C'est pire que la religion. » Lui, qui était scientifique athée, parce qu'il est à l'origine, il était choqué que ça devienne plus une religion. Vous voyez, si jamais on attaque l'évolution, c'est inadmissible. Ouais. Donc, on n'est pas du tout dans un domaine d'objectivité. Dans un domaine de combat d'idées, voyez. Et simplement pour dire que, eh bien, il faut rester très très vigilant par rapport à notre approche scientifique et rester dans la simplicité. Je voudrais qu'on puisse tourner dans Jean chapitre 15, verset 8. Le message de ce matin, c'est sur la, c'est sur les fruits. Hein. Jean chapitre 15, verset 8, c'est Jésus qui enseigne ses disciples sur le cep et les sarments. Hein, bientôt, on va avoir du bon raisin qui va rentrer qui va être engrangé dans les tonneaux, nous faire du bon vin. Et donc, Jésus a pris cette image du cep et des sarments. Et au verset 8, il dit « Mon Père sera glorifié, enfin, est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Hein? Très simple. On peut prendre l'équation à l'envers. On va dire, si on veut être disciple, il faut porter du fruit. Ok ? Puisque Jésus dit, si vous voulez glorifier mon Père, eh bien, vous porterez du fruit et en ceci, vous serez mes disciples. Donc l'aspect du discipulat, on peut le prendre de différentes manières. Hein? Apprendre à connaître Jésus, apprendre à obéir à Jésus, tout ça, bon, c'est une façon d'être disciple, c'est vrai. Mais si on le prend au bout de la chaîne, c'est le fait de porter du fruit. Et un fruit qui demeure. Vous voyez, pas un fruit qui pourrit au bout d'une journée que vous l'avez chez vous. Hein, des fois, ça arrive avec certains fruits. Vous ne pouvez même pas les manger, ils sont déjà pourris si vous les avez gardés 2-3 jours. Mais c'est un fruit qui demeure. Hein, quelque chose qui demeure. Vous pouvez vraiment goûter et vraiment donner quelque chose de subsistant. C'est ce fruit-là qui glorifie Dieu, et c'est en cela que nous sommes disciples. Alors, vous voyez l'objet du message aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut porter du fruit qui demeure, qui glorifie Dieu? Voilà, ça c'est l'objet. Et ça a toujours été la préoccupation de l'Église, enfin des chrétiens en général et de l'Église d'une certaine manière. Le drame, c'est que depuis 50 ans à peu près, enfin une cinquantaine d'années, hein, il y a un phénomène dans l'Église. Vous savez, dans l'Église, c'est comme dans le monde, il y a des phénomènes. Des phénomènes. Comment ça s'appelle ça? Des phénomènes de mode, un peu comme des... Voilà. Des tendances, enfin des... Voilà. Et les chrétiens suivent. Hein, les chrétiens suivent parce que, ah, là c'est bien, et puis voilà, Dieu fait ça, etc. Mais c'est des manifestations de Dieu. Hein. Pour connaître Dieu, on peut le connaître dans sa chambre, sans être dans une manifestation particulière. Parce que Dieu est là. Amen. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si on le croit, c'est que c'est vrai. Maintenant, je le ressens peut-être pas, mais il est là. Donc ça, c'est la foi. Mais il y a des phénomènes. Et un des phénomènes depuis 50 ans, c'est quoi, votre avis? Un des phénomènes. Vous avez des idées de phénomènes? Alors, je cherche le mot phénomène, les modes. Il y a des modes dans l'Église. Les phénomènes. C'est quoi un... Il y a Monsieur Dumont qui me regarde, là. Tu as une idée de phénomène de l'Église? Vous qui êtes déjà dans un certain âge... Vous avez vu beaucoup de choses. Il y en a tellement, c'est vrai. Vous avez l'embarras du choix. Alors, je vais vous en donner un quand même, pour ne rester que sur celui-là. C'est un des phénomènes, c'est les mouvements de croissance. Comment est-ce que l'Église doit croître? Alors, c'est particulièrement vrai dans nos pays occidentaux, où l'Église décroît. Depuis une cinquantaine d'années, mai 68 et autres, toutes les églises, je pense aux églises catholiques, hein, qui étaient remplies. Quand j'étais jeune, dans ma ville, il y avait près de 1000 personnes dans l'église, enfin, dans ces eaux-là, hein, c'était une grande église. Puis maintenant, ils sont peut-être 7 ou 8, quoi. Vous voyez la différence entre... Et ma ville a grandi, hein. Ils sont tous catholiques, hein. Mais ils viennent plus à l'église. Eh. Donc il y a bien un phénomène. Hein. Il y a quelque chose qui s'est produit. Mais à côté de ça, toutes les églises institutionnelles, y compris l'église catholique, vous savez, ils ont même eu un gros problème au changement de l'euro, quand on est passé des francs à l'euro. Un gros problème pour l'église catholique. Parce qu'en général, ils mettaient un franc, enfin, ou 10 francs, et là, ils mettaient un euro. Et un euro, bah, c'était 6,54, vous voyez. Donc en fait, ils allaient perdre 0,4 centimes par temps de gens. Enfin, ils avaient fait 30%. Ils avaient fait tout un calcul. Parce que dans les deniers du culte, normalement, c'était 10 francs ou 1 euro. Voilà. Vous voyez, la préoccupation hein, des leaders. Et donc ça génère une recherche de solutions. Comment est-ce qu'on peut faire croître l'Église qui est en train de décroître hein? Bon, c'est une préoccupation. Je ne discute pas la préoccupation. Mais après, ça devient une mode parce qu'on donne des solutions. Et un article que j'ai lu, là, d'un pasteur, il disait que à cette époque-là, donc il y a une trentaine d'années, qui était pasteur, je ne sais pas exactement dans quelle institution il était, protestante, luthérienne ou réformée, il dit il se réunissait tous les mois pour un petit déjeuner, tous les mois, pour un petit déjeuner de prière. Et il y avait deux sujets de discussion qui étaient tous les mois remis sur la table. C'était quoi? Vous pouvez deviner? Pardon? Les finances, exact. Combien d'argent avez-vous récolté? Et combien de personnes avez-vous dans votre église? Vous voyez, parce que c'est une telle préoccupation de voir que le nombre de personnes diminue, que l'argent diminue. Vous voyez, il faut payer les pasteurs, il faut payer, etc. Que c'était devenu une préoccupation. Tous les mois, ils se réunissaient pour parler que de ça. Vous voyez. Donc c'est bien une préoccupation hein, inquiétante. Il y avait un pasteur qui avait beaucoup de succès, une grande église. Alors là, c'est catastrophe, là. Parce que vous savez, on aime bien être dans le même bateau, quoi. Si on coule, on coule tous ensemble. Là. Mais bah, il y en a un qui a du succès. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, certaines des personnes qui étaient présentes, elles prêchaient tous ces sermons, mot à mot. C'est-à-dire, ils se sont dit, ah, il a du succès. Donc ils prenaient ces sermons, ils les prêchaient mot à mot pour avoir le même résultat. Ils espéraient que, à ce moment-là, ils reçoivent le même résultat que ce pasteur qui avait du succès. Vous voyez, où c'est qu'on peut en arriver? Parce qu'ils voulaient le même genre de succès. Et c'est vraiment typique de la pensée qui imprègne les églises établies, institutionnelles, et les spécialistes de la croissance de l'église. Qui ont mis au point toutes sortes d'idées loufoques hein, pour aider les églises à se multiplier dans le monde occidental. Beaucoup de ces méthodes sont basées sur des manipulations. Sur des manipulations forcées, qui contiennent du marketing, hein, marketing, qui peuvent amener des gens dans les bancs, enfin sur les bancs de l'église. Hein. Et ça, c'est dramatique, parce qu'on vide le contenu spirituel. Et on ne regarde plus que les fruits extérieurs de croissance. Alors, une des erreurs aussi, qui est à la base de cette pensée, hein, qui est... Alors, nous, on a suivi deux séminaires de formation avec Jack Efford, hein, qui est notre responsable spirituel Foursquare, et a dit surtout n'allez jamais dans ces séminaires de croissance. Il ne voulait rien entendre parler de ça, parce que justement, il a dit quand vous y allez, vous sortez déprimé. Pourquoi? Parce que vous allez en Corée, Yonggi-cho, il a 1 million de personnes, vous voulez 1 million de personnes dans votre église, bon, allez, vous sortez déprimé parce qu'il vous donne des méthodes qui s'appliquent là-bas, mais que vous ne pouvez pas appliquer. Un peu comme ce pasteur, il répétait les sermons mot à mot, espérant que l'église va grandir. Mais vous voyez, c'est là où on en arrive quand on cherche les fruits pour les fruits. Au lieu de chercher la croissance du Seigneur, qui porte du fruit, qui glorifie le Seigneur. Vous voyez ? Si on cherche les fruits, est-ce que vous avez déjà vu, je ne sais pas, admettons, vous plantez un abricotier, un abricot, bah Michel vient de voir un abricot qui germait, hop, elle l'a mis à côté, on va le planter, espérons que ça donne un arbre. Mais quand on plante un abricot, est-ce que vous avez vu les abricotiers tout de suite porter du fruit ? Hein ? Est-ce que vous avez vu un abricot qui tirait sur l'arbre pour porter plus de fruits. Hein. Non. C'est un processus naturel. Vous plantez un abricot, Dieu le fait germer parce qu'il y a la vie. Ensuite, il donne des feuilles, des branches, des feuilles. Et ensuite, après, il donne des fruits. Vous voyez, c'est un processus naturel. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de tension. Il y a simplement, il faut prendre soin de cet arbre-là, lui donner la nourriture, l'eau et tout ça. Vous voyez. Mais si vous prenez le problème à l'autre bout, hein, qui est une position, ce qu'on appelle technocratique, hein, technocratique du monde actuel. On vous dit, hein, quand vous êtes entrepreneur ou quand vous êtes cadre dans une entreprise, on dit, bon, voilà, je te fixe des objectifs, il faut que, à la fin de l'année, si tu veux ta prime, hein, attention, ta prime, il faut que tu aies fait tant de clients, il faut que tu aies fait tel chiffre d'affaires, il faut que tu aies, voilà. Vous voyez, ça c'est l'attitude technocratique, on prend le problème à l'autre bout. On veut les fruits et on n'avait qu'à vous débrouiller pour obtenir les résultats. Si vous n'obtenez pas les résultats, on va vous former au leadership, on va vous former tout ce que vous voulez, au management, tout ça. Mais voilà, on vous donne des objectifs. Voyez. Un peu comme si on disait à cet abricotier, mais écoute, voilà, je veux que tu portes une tonne de fruits. Et si tu n'y arrives pas, on te coupe. Hein. Et voilà, voilà, maintenant tu te mets ça dans le crâne. Tu te mets ça dans ton écorce génétique et il faut que tu y arrives et tu y arrives. Alors que c'est pas comme ça, ça marche. Hein. On prend soin de l'arbre, on fait ce qu'il faut, on le soigne pour sa maladie, etc. Et puis il va donner les fruits qu'il doit donner. Point, c'est tout. En fonction de ce que Dieu a prévu pour lui, comme pour nous. Hello. Mais l'Église a fait l'inverse parce qu'elle a eu cette crise de l'absence des gens qui en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont déserté l'Église, à ton avis? Pardon? Oh non, parce qu'ils ne sont jamais été tournés vers Dieu. Ils ont simplement fait librement parce qu'on leur a donné la liberté. Avant, vous étiez obligés d'y aller, sinon vous étiez désigné du Dieu. Dans mon village, quand vous étiez pas à la messe, vous étiez un paria. Donc tout le monde y allait. De toute façon, ce n'était pas compliqué. On y allait juste 10 minutes avant, puis on prenait l'apéro après. C'était vachement bien. De toute façon, vous ne faites pas d'illusions. C'est que du bluff, tout ça. Si notre cœur n'est pas au Seigneur, tout le reste c'est des apparences. Okay. Donc pourquoi est-ce qu'on vient? Est-ce qu'on vient pour avoir la sève du Saint-Esprit en nous et porter du fruit, ou est-ce qu'on y va pour d'autres motifs? C'est un problème de motivation. Donc pour revenir à notre histoire de cet objectif de porter du fruit, il y a quelque chose qui s'est insinué dans la pensée chrétienne. Et ça... même dans votre pensée, je suis sûr qu'elle y est. Donc faites bien attention. Dans la pensée chrétienne, on a pensé, et on continue à penser, que le but du chrétien, c'est quoi? C'est d'évangéliser le monde. Ah oui. Parce que ce but d'évangéliser permet effectivement de justifier tout ce qu'on fait, faire croître l'Église, parce que plus s'il y a ici d'un seul coup 400 personnes, c'est plus facile d'évangéliser le monde, etc. Il faut sauver des âmes. Est-ce que vous pensez que c'est le but de Dieu pour un chrétien? Je me mets au défi, là. Pardon? Non? Voilà. Alors, si le but n'est pas d'évangéliser le monde, ce que la plupart des pasteurs enseignent, parce que ça donne la motivation, le moteur pour faire remplir les bancs de l'Église, etc., c'est quoi alors le vrai but? C'est de glorifier Dieu. Voilà. C'est ce qu'on vient de lire. C'est de glorifier Dieu. Alors là, j'ai pas le temps de développer tout le message dans sa profondeur, mais regardez, il s'est passé quelque chose. Dieu a créé la création, il a créé les anges, il a créé l'humanité, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la chute. Mais si vous lisez de Genèse 1 et 2, et vous arrêtez à 2, parce que 3... il se passe quelque chose, c'est la chute. Mais si vous lisez Genèse 1 et 2, qu'est-ce qui est écrit dans Genèse 1 et 2? Quel est le contenu de Genèse 1 et 2? Pardon? C'est la création parfaite de Dieu. C'est-à-dire, c'est sans la chute. Donc, c'est intéressant de regarder ces deux chapitres-là, parce qu'on voit pourquoi on a été créé. Parce qu'on parle de... La Bible parle de la création de l'être humain, de l'homme et de la femme. Et là, on voit que c'est la pensée originelle de Dieu, ce que Dieu a voulu. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Genèse 1, à propos de l'homme? de la femme. C'est très bon, mais encore. Qu'a-t-il dit encore? Pardon? Vous savez, ce qui est important, quand vous êtes dans une entreprise, je vois là René qui me regarde très bien, dans l'entreprise, on a des valeurs de l'entreprise, on a des fondements de l'entreprise, etc., et on enseigne ça au cadre pour qu'ils puissent bien suivre quand ils sont sur le terrain, cette entreprise. Quand on parle de Dieu, il faut bien connaître la valeur de ce que Dieu a mis dans l'homme. Et là, vous le trouvez dans Genèse 1 et 2. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Il faut bien se mettre ça dans la tête, parce que c'est ce à quoi Dieu veut qu'on revienne, voyez-vous? Après la chute, il y a le plan de rédemption qui doit nous ramener à ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans Genèse 1? Alors, je vais vous emmener dans Genèse 1, 26, hein, on va le lire ensemble. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. » Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez toute la terre, soumettez-la, dominez, etc. Ça, c'est l'intention de Dieu pour ce qui est de la création de l'humanité. Par quoi il commence? C'est une intention en trois parties. Sur trois parties. Première partie, c'est quoi? L'être humain, il est fait pour quoi? Pardon? Alors, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire créer à l'image de Dieu? Parce que je crois que... Pardon? Voilà. Voilà, ce qui est important, c'est ça. Non, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Là, tu es sur la piste, mais tu ne veux pas jusqu'au bout. C'est exactement ça qui est l'important dans ce passage-là, parce que tout le reste, on le comprend. Hein. C'est notre. C'est le pluriel. À notre image. C'est quoi notre image? Oui, mais bon, on va oublier un peu la notion des anges, parce que là, il crée l'homme et la femme. Là. Bon, les anges, c'est un autre verset. À notre image. Là aussi, ce serait toute une prédication, je ne peux pas la faire ce matin. Mais rappelez-vous qu'en dehors des trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, qui, je pense, là, n'a pas toute son essence de compréhension, on le comprend ailleurs, c'est que Dieu veut que nous soyons avec lui un corps. Vous voyez, nation, de corporation, d'être un corps. Ce qu'on retrouve après dans l'enseignement de Jésus. Jésus est la tête, nous sommes le corps. Nous sommes un avec Christ. Voyez? Cette notion de corps, nous sommes en tant que corps l'image de Dieu. Allô? Voyez-vous, la première des choses de l'Église, l'objectif de l'Église, ce n'est pas d'évangéliser le monde. Pas du tout. C'est d'abord d'être un corps avec Dieu. D'être un avec Dieu. C'est tout l'enseignement de Jésus dans Jean 15, Jean 17. Voyez-vous? Vous voyez, c'est toute la notion du corps. Et ça, moi j'aime beaucoup dans Foursquare, avec Michel et même Florence, on a apprécié l'enseignement de Jacques Clifford, ça, il l'a compris de manière magistrale. Et ça change tout. Ça change tout pour les pasteurs, ça change tout pour les objectifs qu'ils fixent pour leur église, ça change tout pour les paroissiens, pour les fidèles, ça change tout. Parce qu'en fait, le pasteur qui est dans cette optique-là, faisons l'homme à notre image, il va chercher non pas à faire croître son église, marketing avec toutes sortes de choses. Moi-même conseillé de regarder les besoins des gens, par exemple au niveau d'école du dimanche, et de faire quelque chose de tellement fort que tous les gens de l'église, de la région vont amener leurs enfants. Vous voyez, bon, je dis rien là-dessus, simplement je ne suis pas d'accord, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire on va faire du marketing, on va dire on va répondre à un besoin de gens pour leurs enfants, et ils vont venir ici, etc. Non, on n'est pas dans du marketing. On est dans l'intention de Dieu pour nous, faisons l'homme à notre image. Et d'abord, nous devons être un corps avec Dieu, uni avec Dieu. Et quand nous sommes dans cette perspective d'être un corps, c'est-à-dire, moi, ce qui m'importe en tant que pasteur, c'est toi, comment est-ce que tu vas évoluer dans ta destinée, Je vais me préoccuper des gens, vous voyez, et pas du nombre de personnes, de la qualité de la personne. Est-ce qu'elle va pouvoir entrer dans sa destinée pour être unie avec Dieu, pour qu'ensemble nous soyons encore, qui glorifions Dieu, que les gens qui nous regardent, c'est ce qui a caractérisé la première Église. La première Église, qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens du monde? Ils ont dit, regardez comme une sème. Alors, ça veut dire qu'ils ont vu l'amour de Dieu dans l'amour des chrétiens. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, souvent? On voit des chrétiens qui, bon, sont trop déchirés, ils critiquent les uns les autres, enfin, vous voyez, beaucoup de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on prend les choses à l'envers. Alors, on cherche à remplir les églises au lieu de chercher à être un corps, être un avec Dieu. Vous voyez. Donc la première des choses de l'intention de Dieu pour l'humanité, c'est faisons l'homme à notre image. Ensuite, la deuxième chose, pour qu'il domine. Ce n'est pas la notion dominée, Louis XIV, cette domination-là. C'est de régner, c'est d'être au-dessus justement du biologique, c'est d'exercer sa volonté, sa responsabilité, c'est d'être dans l'intention de Dieu, avec Dieu, pour favoriser les bonnes choses, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan politique local, politique nationale, etc. Et de manière générale, faire le bien. Ça, c'est la deuxième intention. Dominer, c'est-à-dire qu'il faut que les églises équipent les saints, équipent l'église pour que chacun, dans son domaine d'appel, il soit le meilleur. Il puisse vraiment rayonner avec la grâce et la puissance de Dieu. Amen. Ça, c'est le deuxième objectif. Qui est d'abord. Et ensuite, le troisième, c'est croiser et multiplier. La croissance numérique, elle vient après. L'évangélisation du monde, c'est important, mais ce n'est pas le seul. Voyez-vous, notre mission en tant qu'Église, nous avons décliné la mission dans l'acrostiche FAIRE, F-A-I-R-E-S. Et dans cette acrostiche, pour se rappeler, c'est F, c'est former des disciples, A, c'est adorer Dieu, I, c'est intercéder, R, c'est rassembler, être des rassembleurs, être des gens d'unité, E, c'est évangélisation. Et S, c'est servir. L'évangélisation fait partie des cinq pôles, des cinq piliers, mais ce n'est pas le seul objectif. Donc si on fait le seul objectif de croître numériquement, eh bien, on va à la dérive et on obtient eh bien, ce que le monde obtient actuellement avec les entreprises, finalement, avec la crise est là. Je veux dire, si les gens ont trois voitures, ils ne vont pas s'acheter cinq voitures. Il y a Peugeot qui m'a appelé en me disant, tiens, vous avez une voiture. Je dis, oui, et alors? Oui, mais vous ne voulez pas la changer? Je dis, pourquoi je la changerai? Parce qu'il faut changer, il faut une nouvelle voiture. Je dis, vous proposez la même que la mienne? La mienne, elle marche très bien. Vous voulez me vendre la même voiture? Où est-ce qu'on va, quoi? Vous voyez? Bon, je veux dire, il faut s'arrêter, mais on ne sait plus s'arrêter, parce qu'il faut la croissance pour la croissance. Et donc, du coup, on a des objectifs, mais on ne peut pas les atteindre. Puisque derrière, il n'y a pas les sous, les gens n'ont pas de sous pour l'acheter. Donc vous voyez, on est dans un système corrompu, mais avec le Seigneur, lui, il donne la vie au départ. Vous voyez, il ne donne pas les techniques pour y arriver. Il donne la vie. La vie, elle produit du fruit. À condition qu'on en prenne soin, qu'on prenne bien soin de cette vie pour qu'elle puisse atteindre son objectif. Amen. Donc nous sommes les garants de cette vision corporative, communautaire de l'Église. C'est pour ça que c'est la qualité dans nos relations qui est importante, qui va donner du fruit à terme, amen, en termes de croissance. Parce que c'est naturel, c'est normal que ça donne de la croissance. C'est inéluctable, je veux dire. Un arbre qui est en bonne santé, il va donner du fruit, point. Et Dieu est capable... Lorsqu'il met la vie en nous, dans nos corps, eh bien, de produire du fruit, c'est les fruits du Seigneur. Amen. Quand on met l'évangélisation en avant, on trouve des résultats très peu profonds. Très peu profonds. On dit aux gens, allez évangéliser, allez dans la rue, tous les samedis vous allez dans la rue, etc. Bon, j'ai rien contre ça. Mais s'il n'y a que ça, ça donne des fruits très très profonds. On peut grandir le nombre de chaises. Hein. De 1, on peut passer à 10, à 100, à 1000, à 10 000, à 100 000, mais vous ne rajoutez que des zéros. Okay. Or, si vous rajoutez des zéros dans l'Église, ce ne sont que des zéros. Okay. Dieu ne veut pas qu'on soit des zéros, on veut qu'on soit quelqu'un. Okay. Donc, il faut qu'on soit édifié dans chacun de nos vies pour que nous puissions produire du fruit. Et ensemble, nous allons produire des fruits délicieux pour la gloire du Seigneur. Amen. Dieu a créé l'humanité. Il a chuté. Et ensuite, Dieu a mis un plan d'urgence en place. Ça s'appelle le plan de rédemption pour racheter l'humanité. Okay. Mais ça, c'est si nous nous concentrons sur le plan d'urgence, nous n'allons pas nous concentrer sur le plan réel au départ. Hello ? Vous saisissez ? Or, la plupart des églises se concentrent sur le plan d'urgence. Si vous faites de l'urgence, vous ne faites plus un travail de profondeur, un travail qui nécessite un recul sur les choses. Okay. Or, nous, ce que nous voulons faire, et je souhaite à toutes les églises de revenir à ce concept que nous ne sommes pas dans les plans d'urgence. Dieu s'est occupé du plan d'urgence, il a donné Jésus à la croix, il a fait que le plan soit rétabli par la croix. Si nous rentrons dans ces choses, si nous soumettons notre péché à la croix, eh bien nous sommes libérés. Et en tant que chrétien, Dieu va nous donner la croissance qui est conforme à son plan à lui. Amen. Si aujourd'hui, les Occidentaux ne veulent pas de Dieu, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Qu'on les évangélise plus? Qu'on les bourre d'un tas de choses? Ils ne veulent pas. Vous voyez, Dieu respecte la volonté. Je sais que quand j'étais en Angleterre avec Michel, on était pendant 4 ou 5 ans, écouter John Wimber, des fois deux fois par an, il venait en Angleterre, et puis tous les pasteurs en France sont précipités sur lui, il faut venir en France, parce qu'on pensait qu'il allait amener le réveil, parce que lui, là où il passait, il avait des miracles. Je vous dis, même en Afrique du Sud, il avait des gens qui ressuscitaient, il fallait qu'il prie pour discerner, pour ceux qui prient, parce que c'était pas bon que tout le monde ressuscite, parce qu'il fallait chercher la volonté de Dieu. Donc c'était tellement un homme de miracle que, en fait, on s'est dit, s'il va venir en France, il va faire des miracles. Ah bah, quelle déception, parce que je suis allé à la première réunion où tous les pasteurs sont venus à Paris pour l'écouter, et là, ils ont tous pris une claque, parce qu'il leur a dit, écoutez, je suis venu parce que vous m'y obligez, mais je sais que Dieu ne peut rien faire en France, parce que vous êtes, enfin, donné un certain nombre de raisons que Dieu lui a données, et a dit, mais vous êtes comme au temps des juges. Dieu m'a montré, vous êtes au temps des juges. Au temps des juges, il ne se passait rien. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Donc, il faut peut-être attendre la saison, il y aura peut-être un autre temps, mais si vous êtes dans le temps des juges, il faut attendre, vous êtes dans une saison. Ok ? So what ? On a connu d'autres saisons. On a connu des saisons où le royaume de France était à moitié huguenot. Plus de la moitié était protestant avant qu'il y ait les persécutions. Mais c'est Dieu qui décide. C'est pas nous. Mais notre responsabilité, c'est de vivre le mieux possible. Notre responsabilité, c'est de faire ce que Dieu nous demande et de vivre sa volonté chaque jour. Et nous porterons des fruits, et en tant qu'Église, nous allons porter du fruit, et obligatoirement, même des gens qui ne veulent pas se convertir, ils vont être touchés par la grâce de Dieu. Et là, nous aurons un impact. Amen. Donc vous voyez, c'est une autre approche que celle du marketing, de fixer des objectifs, de dire il faut être tant à la fin de l'année, il faut être tant, etc. Et même si c'est pas écrit, bah, c'est tellement dans les paroles parfois que vous pouvez l'écrire. Hein. Eh bien, il faut que nous soyons des chrétiens différents, des chrétiens où la clé, c'est de faire circuler la vie dans le corps et de pouvoir développer les fruits de l'esprit. Amen. Et de vivre la saison que le Seigneur nous donne de vivre. Amen. D'ailleurs, dans Hébreux, vous connaissez ce passage où il a dit certains ont vécu des choses extraordinaires, hein, comme Gédéon, comme Barak, et d'autres Ils ont vécu dans la défaite. Mais c'est pas pour autant qu'ils n'étaient pas dans la foi, parce que nous, on vit dans la foi de tous ceux qui nous ont précédés, de tous ceux qui nous suivent, puisque nous sommes dans une continuité. Donc nous sommes au-delà, nous sommes vainqueurs, de toute manière. Même s'il n'y a pas 1000 personnes qui se convertissent en Bergenville, par exemple. Nous ne vivons pas de ça. Que nous l'espérions, oui, mais que nous ne vivions pas de ça. Amen. Il faut apprendre à vivre de la vie du Seigneur incarné, c'est-à-dire qui s'incarne en nous, où nous sommes des exemples vivants de la grâce et de la puissance de Dieu. Amen. Il faut nous désintoxiquer des systèmes et des mentalités de la religion et des méthodes actuelles, qui sont prônées, bien sûr, par le monde, parce que le monde ne peut pas faire autrement. Dans une entreprise, sauf si elle est chrétienne, il ne prie pas pour le résultat de fin d'année. Il fixe les objectifs et à vous de les tenir, sinon votre prime saute. Si on est chrétien, on prie, on demande au Seigneur, amen, on agit. On le fait pour nous, pour nos familles, pour notre église, pour église locale ou nationale, et que le Seigneur puisse vraiment nous aider à vivre dans cette perspective où nous glorifions le Seigneur par les fruits que nous portons, mais ce n'est pas nous qui les portons, c'est le Seigneur en nous qui les porte, qui les portons. Nous devons être fidèles, nous devons obéir, nous devons être attachés à l'arbre comme les serments sont attachés au cep. Amen. Ça, c'est notre responsabilité. Nous devons nous purifier de tout péché, nous devons confesser, nous devons changer de vie, changer de mentalité. Bientôt, on va commencer le torrent qui purifie, qui nous aide encore à nous libérer de poids du passé pour que nous puissions porter du fruit, et pas simplement seul, mais ensemble. Amen. Ensemble, comme un corps, et pas uniquement local, mais dans la région. C'est pour ça qu'on cherche l'unité, et même au-delà, que nous puissions être ensemble dans cette perspective de croissance qui ne part pas des fruits, mais qui part de la racine. Amen. Il faut s'occuper des racines. Et ensuite, après, les fruits, c'est le Seigneur qui les donne. Amen. Tu veux dire quelque chose ?
Pour confirmer ce qu'André dit, la dernière fois quand on était aux États-Unis, donc c'était en mars, on a rencontré le pasteur de l'église qui s'appelle The Rock, le rocher, qui prêche ce style de message. Et j'étais très étonnée qu'avec un message assez exigeant finalement, de dire aux gens « attachez-vous d'abord à Dieu et changez de vie, changez de mentalité, etc. » Cette église, c'est une église qui grandit énormément à Los Angeles. À Le Rock, ils ont dépassé les... Combien ils sont ? 10 000 ? Avec un message beaucoup plus exigeant encore que ce qu'on a dit ce matin, André n'a pas eu le temps de tout couvrir. Parce que j'ai pu constater que même aux États-Unis, où on a tendance à prêcher plutôt dans le sens marketing, il y a beaucoup de pasteurs qui achètent des stades, etc., et qui sont des gens très bien. Il ne s'agit pas de les critiquer. Ils font le travail qu'ils font. Mais ce genre de message, c'est celui qu'on a sur le cœur, et de voir ce jeune pasteur avec ce message assez exigeant. Il a dit, c'est simple, la cause est simple. Quand quelqu'un a sa vie transformée, vraiment transformée, ses amis, sa famille disent, comment t'as fait ? Et ils ont juste à répondre, je me suis confié en Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et ben nous on va en faire autant. Il a dit, vous savez, on n'a pas besoin de se battre pour l'évangélisation. Quand les gens sont authentiquement transformés, pas changés de costume, mais intérieurement vraiment transformés. La fois suivante, ils viennent avec 5 personnes, parce qu'il a un cours très suivi, assez exigeant d'ailleurs, on l'a rapporté. Il l'a expérimenté d'abord sur le groupe de jeunes, donc Florence va peut-être essayer ça. Mais quand on est transformé soi-même, les frères et sœurs, la famille, les cousins, les amis, les collègues de travail, ils vous demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et ils disent, c'est simple, ils ont envie d'en faire autant. Comment t'as pu réussir à te débarrasser de la cigarette ? Comment t'as pu réussir à te débarrasser ? Ah bon ? Je vais essayer. Et voilà, donc c'est vrai que c'est plus logique de commencer par l'intérieur. Mais je voulais juste vous rassurer, ça mène à une évangélisation formidable. Moi, quand il a annoncé ses chiffres de croissance, je dis, avec ce qu'il enseigne, il est hyper sévère. Je dis, waouh ! C'est parce qu'il a dit, c'est simple, c'est parce qu'il y a des vies transformées. Et ça, c'est le meilleur témoignage. C'est pas la peine de blablater aux gens pendant des heures. une vie transformée. On dit toujours quoi, un dessin parle plus qu'un long raisonnement, et une vie transformée, ça parle plus que tout un blabla. Et ça m'a beaucoup touchée, donc je veux vous encourager. En fait, ce style de fonctionnement amène forcément à une évangélisation importante.
C'est vrai aussi pour le couple, hein, où il a dit que la femme ne doit pas s'acharner sur le mari et essayer de le convertir, mais c'est son attitude qui va le toucher. Donc c'est toujours le même principe. Ça a été à la prière. Seigneur, nous te louons, parce que c'est vrai que tu nous as rappelé ce matin que pour être disciples, nous devons porter du fruit qui glorifie le Père. Et Seigneur, ce fruit, nous ne pouvons pas le porter par nous-mêmes dans notre corps de chair, notre corps, Seigneur, et notre chair corrompue. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui, par ton action, peut produire ses fruits en nous. Alors, te demandons, Père, que tu nous aides à faciliter cette action de l'Esprit pour que nous portions du fruit qui demeure et que ce fruit puisse toucher les personnes de notre entourage et tout d'abord nos conjoints, nos enfants et nos familles, Seigneur, et ensuite les autres qui nous entourent, Seigneur, au travail et ailleurs. Seigneur, merci parce que tu nous as donné le bon mode d'emploi, pardon, d'avoir cherché à en utiliser d'autres, hein, et en particulier de saisir ceux du monde. Mais Seigneur, nous voulons revenir en tant qu'Église aux vrais enjeux et aux vraies méthodes qui sont celles que tu nous as données, Seigneur. Et nous te demandons de nous aider pour cette rentrée à commencer sur le bon pied, pour que nous puissions porter du fruit à ta gloire. Te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.